l'Évangile dans Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 26, c'est dans un enseignement assez long de Jésus sur la mission. Ne les craignez donc pas, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Est-ce que l'on ne vend pas deux moineaux pour un sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre sans votre père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La première parole que nous avons entendue, ne les craignez pas, fait suite aux paroles précédentes où Jésus annonçait à ceux qu'il envoie en mission qui seront persécutés comme lui. Là, il dit donc de ne pas craindre ses persécuteurs. Qu'est-ce que c'est ce secret ou ces choses dites dans l'ombre ou à l'oreille et qui vont être proclamées partout? Quand on lit l'Évangile, Jésus n'a pas proclamé partout sa croix. Il n'a pas proclamé ça aux foules, comme ça, je vais mourir, je vais ressusciter. Il l'a dit à ses disciples. Il l'a dit trois fois seulement, une fois par an, grosso modo. Et ses disciples, qui ont écrit les évangiles, ont ajouté, ils n'avaient rien compris. Donc, c'était pas compréhensible. Le message fondamental du royaume de Dieu, la résurrection de Jésus, sa souffrance expiatoire, sa souffrance par amour pour prendre les insultes des hommes contre Dieu, pour prendre les maladies. Mais ce qui était caché et doit être proclamé et sera proclamé au vu et au su de tous. L'Empire romain pendant au moins deux siècles a empêché la proclamation de l'Évangile en tuant les chrétiens. Ce n'était pas tout le temps, mais il y a eu plusieurs vagues de persécution après des vagues de cohabitation avec les chrétiens. Nous sommes actuellement de nouveau dans probablement la vague de persécution finale. 380 millions de chrétiens vivent la persécution. C'est quelque chose que, par exemple, en Corée du Nord, même un parent ne peut pas en parler à ses enfants, si ce n'est très discrètement. Si l'enfant en parle à l'école, le père ou la mère sont déportés. C'est le cas en Chine, les enfants n'ont pas le droit d'entendre l'Évangile. C'est interdit. n'ont pas le droit de venir à la messe ou au culte. Il y a des caméras dans les temples, il y a des caméras autour des temples, dans les temples, dans les églises, même officielles. Strictement interdit qu'un enfant soit vu adorant le Seigneur avec les adultes. Et là-bas, ça concerne des centaines de millions de chrétiens. Rien qui est caché, qui ne sera proclamé. Jésus voit bien que la persécution n'empêchera pas que la proclamation de la royauté de Dieu en Israël soit proclamée, au vu et au su de tous. Nous avons vu ça à Noël, mais nous passons dessus à cause de l'ambiance féerique de Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé à Noël? C'est que le roi des Juifs de l'époque, qui était Hérode, qui avait reçu ce titre des Romains, il y a des étrangers qui viennent chez lui, lui dire « Ah, on sait qu'il y a un roi des Juifs qui est né là. Où est-ce qu'il est ?» Donc, proclamation au plus haut niveau qu'il y a un roi des Juifs qui est né à... Alors c'est la panique. Vous connaissez la suite de l'histoire. Tous les mamans juives ont leur bébé massacré. Israël participe à cette croix. Le monde ne veut pas de ce Dieu. Il invente ses dieux et ne veut que inventer ses propres dieux. Donc Jésus envoie ses disciples en mission. Il y a tout le chapitre 10 de Matthieu qui parle de cela. Et quand on regarde la suite au chapitre 11, on lit au début du chapitre 11, « Or, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là enseigner et prêcher dans leur ville. » On ne nous raconte pas ce que les disciples sont allés faire. On dirait que c'est Jésus la mission. Mais oui, la mission, les disciples l'incarnent et l'incarneront parfaitement après la résurrection. Ils ont été envoyés déjà avant la résurrection en mission. D'autres évangiles nous racontent qu'ils ont eu tellement d'émerveillement de voir des malades guérir, des sourds entendre, des aveugles de voir. Des démons qui partent quand ils disent au nom de Jésus, sort, pars. Ils étaient émerveillés. Ils ont passé un bon moment avec Jésus avant. Mais Matthieu ne raconte pas ça. Il ne raconte pas le compte-rendu de la mission. Il nous dit que c'est Jésus qui est allé. Jésus est en mission aujourd'hui. Du moment que nous sommes baptisés, nous sommes en mission. La mission n'est pas forcément quelque chose que je vais me convaincre moi-même de faire. Pour le Seigneur, il faut d'abord avoir cette identité que les disciples ont reçue de Jésus. Parce que quand ils rentrent de mission dans les autres évangiles, on voit qu'ils étaient tellement joyeux et devenaient un peu fiers de ce qu'ils avaient fait pour le Seigneur. Et Jésus dit, attention là, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux, pas de ce que vous faites. Parce que ça, c'est ma grâce qui le fait à travers vous. Ah, il faut se réjouir de qui on est. C'est déjà ça la mission. Qui sommes-nous? Moi qui suis baptisé, ou moi, si je ne suis pas baptisé, qui a découvert l'amour de Jésus, qu'est-ce que je suis devenu dans cet amour? C'est un grand mystère, ça. On n'arrêtera jamais de louer Dieu pour ce qu'il nous a fait devenir en Jésus-Christ. Ses propres fils, au même titre que Jésus. Le thème de la mission dans l'évangile de Jean est présenté justement au moment où Jésus manifeste le comble de son amour en lavant les pieds à ses disciples. Manifeste le comble. Et alors, là, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie.
Il vient de laver les pieds.
C'est ça l'envoi en mission?
Oui.
Oui.
Parce que moi j'ai fait à Olivier Mélesville, il a été bouleversé. Il a été bouleversé. On a lavé les pieds dans ce temple, un paroissien. Parce que Jésus est venu à chacun de nos pieds. Et nous n'avons pas à nous mettre au-dessus des autres. Très difficile pour un pasteur de comprendre ça. Hein. Un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie, dit après dans Jean 3, 16, Jésus. Ce que j'ai fait, faites-le, c'est ça la mission. J'ai lu une petite histoire, je pense qu'elle est vraie. Cette semaine, c'est une femme docteur malgache qui m'envoie des méditations comme ça. Pas le temps de tout lire, mais là je suis tombé sur une qui m'a beaucoup intéressé. C'est une petite fille dans un bus, une petite fille dans un bus. Elle voit un monsieur âgé qui est monté dans le bus. Elle se lève, parce qu'il y a plus de place. Elle propose à ce monsieur âgé de prendre sa place. Et le monsieur est tout content. Après, elle reste debout, à côté, dans un côté du siège. Et le monsieur lui dit, merci ma petite, merci. Moi, je m'appelle Simon Besançon, voilà. Et toi, comment tu t'appelles? Et la petite lui répond, moi j'appartiens à Jésus. Cette petite fille, moi je pense que c'est vrai, il y a des enfants qui ont le cœur tellement plein de Jésus que spontanément, ils parlent de ça. Moi j'appartiens à Jésus. Et elle demande, et toi, à qui tu appartiens? Alors monsieur, il ne savait pas trop quoi répondre. Mais c'est une vraie question. Alors je pense qu'il a cheminé dans la foi. Mais vous voyez, la mission, un enfant a accompli cette mission. De proclamer que Jésus est celui qui mérite qu'on lui appartienne. Parce que lui-même s'est donné entièrement. Lui-même nous a aimés de l'amour du Père. Il nous a mis cet amour dans le cœur. J'ai lu aussi cette semaine qu'un juif disait, moi on ne m'a rien appris, je n'ai pas fait de catéchisme à la synagogue, je ne me sens pas juif, je ne sais pas qui je suis. Et un rabbin lui a dit, c'est impossible. En tant que juif, tu es un descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ça s'est marqué dans la Bible, y compris dans le Nouveau Testament, pour ceux qui doutent encore. Cette identité de tes ancêtres, elle est en toi. Tu as une identité, tu as une mission. C'est ça qui m'a intéressé. Ah, du moment que tu es juif, tu as une mission. C'est pas n'importe quoi d'être juif. C'est pas n'importe quoi d'être baptisé dans le Messie d'Israël. Nous sommes baptisés dans le Messie des Juifs. Sur la croix, il y a une inscription. La seule église où j'ai trouvé l'inscription en entier, c'est l'église de Péchadoir. Je n'ai pas vu dans d'autres églises. J'en ai vu des églises dans le monde. La seule église qui a mis l'inscription, c'est ici, en Auvergne. À l'église de Péchadoir, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. En grec, en latin, en hébreu, Pilate l'a fait écrire. Et aujourd'hui, quand vous dites que vous aimez les Juifs, vous êtes persécutés. Vous êtes persécutés. Bien, on vous regarde avec un regard qui en dit non. Les insultes de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Si vous parlez de Jésus-Christ, bon, si vous parlez juste pour parler, ça passe. Parce que chacun a son idée de Jésus-Christ et chacun se fait son idée. Même les non-croyants ont une idée de Jésus. Bon. Et nous prêchons le roi des Juifs. Nous prêchons celui que les prophètes ont annoncé. Nous prêchons celui en qui croyait Abraham. Abraham a vu le Christ. Les Hébreux ont marché. Comment ils ont pu marcher dans la mer pour être délivrés de l'Égypte? En Christ. Comment pouvaient-ils boire 40 ans dans le désert où il n'y a pas d'eau? En Christ. Tout ça, c'est expliqué dans le Nouveau Testament. Le Christ était celui qui leur donnait à boire tous les jours. Nous avons le repas du Seigneur ce matin. C'est le centre de notre culte. Jésus a partagé son corps et son sang. Les premiers chrétiens le faisaient pendant un vrai repas, parce qu'il prend en compte tous les aspects, tout ce qui fait notre vie sur terre est pris en compte par Dieu. Pas seulement le spirituel, mais aussi le matériel. Quand on se confie en Dieu, on a aussi le secours matériel, le secours physique. Tout à l'heure, après la prédication qui va se finir, rassurez-vous, quelqu'un aura une bénédiction de la part de Jésus. L'onction d'huile sera faite par Alain sur Jocelyne. Nous allons prier pour une bénédiction physique, psychique, spirituelle sur Jocelyne. D'ailleurs, la mission que Jésus confie, hein, je vous rappelle, dans Matthieu 10, on retourne à notre texte au début. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Verset 1. Verset 5. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Maintenant, il y a une parole très très forte de Jésus concernant les moineaux. Vous avez remarqué cette parole sur les moineaux? Voilà. Avec Georges, on parlait des pies et des oiseaux qui nous mangent les cerises sur nos arbres. Ils y vont de gaieté de cœur, hein, voilà. Et ils n'ont pas de diabète, hein, on dirait, les oiseaux. Hein. Alors, là, Jésus nous parle des moineaux. Alors, on peut considérer que ça, c'est un peu de la poésie, quoi. Oui, oui. Ne tombe pas à terre un seul. Je relis le verset 29. Pourtant, pas un moineau ne tombe à terre sans votre Père. Je relis. Chaque mot porte. Pourtant, pas un moineau ne tombe à terre sans votre Père. Mais comment il voit la nature, Jésus? Vous sortez du temple, là, où les plumes d'un malheureux pigeon qu'un chat probablement a déchiqueté. Pour voir la main de Dieu, quand un moineau tombe à terre, il ne tombe pas sans votre Père. Nous avons là quand même un mystère, non? Je ne prends pas Jésus pour un poète. Hein. Un poète qui raconte des choses fictives. Très belles, mais fictives. Non. Omniprésence de Dieu. Pas de n'importe quel Dieu. Du Père. Omniprésence du Père. Omniprésence du Père. Nous sommes devant une parole forte. Le cœur de l'Évangile, le Père, qui est présent à tous nos besoins, puisque nous valons bien plus que des oiseaux. Et donc, ça doit nous donner du courage pour se reconnaître devant tous, même devant des menaces terribles, comme appartenant à son Fils. Amen.